Qu'est-ce que je vais faire à manger ce soir? Ah, je sais. Anne va me donner des recettes simples et délicieuses.
Mettez votre tablier, sortez vos ustensiles et préparez-vous. C'est l'heure de Food Anne sur Infini Radio.
Bonsoir à tous, bonsoir Nathalie, bonsoir Théo, je suis désolée, vous m'entendez avoir un bon petit fou rire parce que Nathalie avait fait juste une petite mauvaise manip et juste au début de l'émission, donc c'est voilà, ça me fait sourire, ça donne une bonne ambiance au niveau de notre début d'émission. J'espère que vous allez bien en ce début de semaine avec ce beau temps.
Oui, quand même, ça commence à aller un chouïa mieux.
Oui, ça fait du bien un petit peu. Bon, il faut savoir qu'il va pleuvoir cette nuit quand même.
Oui,
mais c'est, mais c'est la nuit. Donc c'est bien pour les plantations et si la journée on peut avoir un peu de soleil, ça sera encore mieux. Voilà, alors ce soir, je vous ai trouvé des recettes, comme d'habitude, aussi délicieuses et faciles à réaliser. Je vous donnerai aussi des astuces et puis comme toujours Nathalie interviendra sur un ingrédient ou la recette pour nous raconter à son origine. Voilà, et ben voyons ensemble un peu le menu de ce soir qui est original puisque on va commencer par du pain de saumon au coulis de poireaux. Alors si vous ne connaissez pas le coulis de poireaux, je vous assure c'est comme un velouté, c'est pareil, sauf que c'est beaucoup plus fin, on va dire. Pour ça, vous aurez besoin de 4 poireaux, 20 centilitres de crème fraîche, 50 g de beurre, du poivre et du sel. Pour le pain de saumon, vous aurez besoin de 20 centilitres de crème fraîche, du sel, du poivre, de la ciboulette, 200 g de saumon frais. Bon, si vous le trouvez déjà tout cuit, ben pourquoi pas, mais pas du saumon fumé, on est bien d'accord, c'est pas du tout la même chose. Et puis 4 œufs. Côté matériel, on aura besoin d'un chinois, d'un mixeur, d'une fourchette, d'un saladier, d'une cuillère en bois, d'un fouet, d'un couteau, d'un plat à cake, d'un cuit-vapeur et d'un plat pour le bain-marie. Donc évidemment, pour le plat bain-marie, il faut que votre plat à cake rentre dans ce plat. Et je vous expliquerai un petit peu l'astuce comment mettre l'eau tout à l'heure. Et puis, on va mettre du lapin au pistou. Donc, le lapin au pistou, c'est excellent aussi. Vous allez voir, c'est très sympa. Pour cela, on a besoin de 5 tomates, 15 centilitres d'huile, du poivre, du sel, un lapin, évidemment, 1 kg. Donc, un lapin, on va dire 1 kg 2, 1 kg 5. Hein. Voilà, surtout que c'est pour 6 personnes, donc il faut qu'il y en ait pour tout le monde. Si vous avez du lapin qui est déjà pré-coupé, c'est encore mieux. Ouais. Pourquoi pas. On aura besoin de 9 gousses d'ail, donc ça va être très relevé, normal, hein. C'est le pistou. Et puis, on va avoir besoin de 5 branches de basilic. Et 1,5 kg de cèpe, puisque ça va faire partie de nos légumes. Et puis, on est quand même, bien que ça soit la fin de la saison. Alors, si vous ne trouvez pas des cèpes, bah, faites avec les champignons de Paris. Mais les cèpes, c'est sympa parce que bon, ceux qui vont en forêt vont en trouver. Voilà, 1,5 kg, ça fait beaucoup, mais ça réduit.
Oui, beaucoup. Hein,
donc, ça réduit énormément. Et au niveau du matériel, vous aurez besoin d'un couteau, d'un mixeur, d'un économe, d'une fourchette, d'une cuillère en bois, d'un couvercle et sa casserole et d'un plat allant au four, puisqu'on finira la cuisson au four. Et puis, ben, quelque chose d'un petit peu original, je vous avais parlé la semaine dernière, puisque la semaine dernière c'était Pâques, de mémoire, ou oui, c'est ça, c'était Pâques. Mmh. Ou c'était il y a 15 jours
oui,
déjà.
Oui, il y a 15 jours, je crois.
C'est peut-être déjà il y a 15 jours, ça passe trop vite. Ouais. Donc là, on va faire du flan au chocolat de Pâques. Voilà, donc c'est avec les restes de chocolat. Donc ça, vous pouvez le faire toute l'année, je vous expliquerai un petit peu. Donc pour ça, il nous faut 100 g de sucre en poudre, 1 litre de lait, 6 œufs et 200 g de sujet en chocolat. Donc ça peut être une cocotte qu'on n'a pas finie ou un petit lapin ou un œuf, peu importe, ou des petits sujets comme de la friture, ce qu'on appelle de la friture. Pour le matériel, vous aurez besoin donc d'une casserole, d'un fouet, d'un saladier, de 12 ramequins. Parce que si j'avais mis que 6, tout dépend de la contenance de votre requin, de votre ramequin, pas requin, ramequin. Donc, il y a des ramequins qui sont plus ou moins grands. Donc, voilà, c'est à vous de voir, sachant que vous allez mettre quand même un litre 2, un litre 3 dans vos ramequins. Donc, il faut que... Bon. Faites-en 12 s'ils sont petits et 6 s'ils sont grands. Voilà, bien écoutez, donc, et puis un plat pour qui va accueillir justement ces ramequins. Donc choisissez un grand plat ou deux plus petits, c'est comme vous voulez. Voilà, bien écoutez, avant de commencer de parler de l'entrée, moi je vous propose déjà une pause et puis on se retrouve pour le pain de saumon et son coulis de poireaux. A tout de suite.
Cœur noir dans le vide, je dévisage ce qu'il reste de mon avenir. Mes souvenirs deviennent liquides, je voudrais en quitter le navire. Et finalement j'en perds mon temps, comment puis-je me perdre autant? Le vent se lève, je tenterai d'être un survivant. Au bout de mes lèvres, les mots m'attendent, ils se serrent mais jamais ne tombent. Au fond de moi, je suis fait de catacombes. J'ai le chronomètre dans la tête. Combien de rêves me faudra-t-il pour que les heures s'arrêtent? Je suis dépassé par le temps, je ne pense plus comme avant. J'ai besoin de prendre l'air, je veux rejoindre la lumière. Je me nourris de distance pour sentir mon existence. J'ai besoin de me distraire, mais je suis au fond de l'enfer. Je suis dépassé par le temps. J'ai besoin de prendre l'air, je veux rejoindre la lumière. L'arme est une solution, je deviens l'ennemi de ma raison, je deviens l'ami de mes pulsions. Je me cacherai parmi les ombres, je suis séduit par les fausses. Séduit comme Faust, je me rapproche de mes défauts. Je n'ai plus sommeil, je n'ai plus de réveil. Et pourtant la nuit ne me porte plus conseil. Je n'ai plus sommeil, je n'ai plus de réveil. C'est complexe d'exister mais au moins j'essaye. Chronomètre dans la tête. Combien de rêves me faudra-t-il pour que les heures s'arrêtent? Je suis dépassé par le temps, je ne pense plus comme avant. J'ai besoin de prendre l'air, je veux rejoindre la lumière. Je me nourris de distance pour sentir mon existence. J'ai besoin de me distraire, mais je suis au fond de l'enfer. Je suis dépassé par le temps. J'ai besoin de prendre l'air, je veux rejoindre la lumière. Depuis quand est-ce que j'ai mal tourné? Car je me sens tout décentré. Je ne suis plus pareil. Je ne suis plus le même. Je ne connais plus le thème. Je poursuis le soleil. Je suis dépassé par le temps. Je ne pense plus comme avant. J'ai besoin de prendre l'air. Je veux rejoindre la lumière. Je me nourris de distance pour sentir mon existence. J'ai besoin de me distraire.
À 20h30, cuisiner en direct avec Anne dans l'émission Food Anne.
Alors nous revoici pour notre première recette, à savoir donc le pain de saumon et au coulis de poireaux. Alors Nathalie, j'aimerais bien que tu puisses nous dire quelque chose sur le poireau.
Le poireau, il est cultivé, c'est une espèce de plante herbacée vivace, largement cultivée comme plante potagère pour ses feuilles consommées comme légumes. Issu de la domestication du poireau perpétuel et sélectionné pour son feuillage, il appartient à la famille des Amaryllidacées, précédemment famille des Liliacées, puis des Aliacées. Son nom commun, c'est poireau ou poro ou poiré ou poirette ou asperge du pauvre. Le poireau est un légume très anciennement connu. En effet, il était cultivé en Égypte au IIIe siècle avant Jésus-Christ, en Mésopotamie, et il fait partie des ingrédients figurant dans les plus vieilles recettes de cuisine qui soient parvenues à l'époque contemporaine. L'Ancien Testament le mentionne également brièvement dans l'Exode hors Égypte. Par la suite, Hippocrate en parle comme l'un des légumes les plus cultivés de Grèce et dans la Rome antique. Il est tenu en haute estime L'empereur romain Néron est surnommé le porophage car il en consomme de grandes quantités pour s'éclaircir la voie. À l'époque carolingienne, cette plante figure parmi les plantes potagères recommandées dans le capitulaire de Vilis. Au 7e siècle, Platéarus déconseille sa consommation et Hildegarde de Bingen lui attribue comme effet de diminuer la vigueur sexuelle. En France, au 15e siècle, il fait partie de l'alimentation de base des paysans, quoiqu'à un degré moindre que le chou ou l'oignon.
C'est aussi vieux que le chou et l'oignon, en fin de compte. Hein.
C'est ça.
Et alors, tu disais que c'est l'asperge du pauvre.
Ouais.
C'est marrant, ça. Hein. C'est marrant.
Il ouais.
Faut dire que, bon, en ce moment, c'est les asperges. Hein. Je ne sais pas si ils ont vu quelque chose, là, parce que vu le prix de l'asperge, alors qu'on est en pleine saison, c'est du grand n'importe quoi. Donc,
c'est
effectivement, je préfère prendre du poireau. Bon, ce n'est pas la même chose.
Ce n'est pas la même goût non plus.
Ça, c'est clair. Mais voilà, donc, écoutez, on fait un coulis de pauvre, voilà, un coulis d'asperges pauvre, voilà. Bah écoutez, merci Nathalie pour ces détails. Alors on va voir ensemble les ingrédients pour ce coulis, ce pain de saumon au coulis de poireaux. Donc pour le coulis, on aura besoin de 4 poireaux, de 20 grammes, 20 centilitres de crème fraîche, 50 grammes de beurre, du poivre et du sel. Pour le pain, on aura besoin de 20 centilitres de crème fraîche, du poivre, du sel, de la ciboulette. Vous pouvez rajouter aussi de l'aneth. Ça donne un autre goût, hein, différent. Et 200 grammes de saumon frais et 4 œufs. Et puis, côté matériel, on aura besoin d'un chinois, d'un mixeur, d'une fourchette, d'un saladier, d'une cuillère en bois, d'un fouet, d'un couteau, d'un plat à cake, et puis d'un cuit-vapeur et un plat pour le bain-mari, bien évidemment. Comptez qu'il vous faudra quand même 1h05 en tout, dont vous aurez 20 minutes de préparation, donc ça, c'est pas énorme. Et puis après, c'est 45 minutes de cuisson. Donc voilà, et pendant la cuisson, vous ne faites rien. Hein, donc c'est que 20 minutes de préparation. Alors dans un premier temps, on va préchauffer votre four à 200 degrés. Et puis avec le plat rempli d'eau. Alors pour cela, vous pourrez éviter les catastrophes parce que au moment si vous remplissez votre bain-marie d'eau et que vous mettez votre plat plein à l'intérieur, l'eau va déborder.
Ouais.
Donc l'astuce, c'est de mettre le plat à cake dans votre plat à lin pour le bain-marie. Vous le remplissez d'eau, vous le posez dans le four, comme ça il va chauffer, et vous enlevez le plat à cake. Comme ça, vous avez exactement la bonne
quantité d'eau.
Alors, pourquoi on fait ça? Parce qu'il faut que notre pain de saumon aille au bain-marie, mais dans un bain-marie chaud.
Déjà chaud, d'accord.
Voilà, donc le temps de la préparation, votre bain-marie sera déjà chaud. Voilà, on ne démarre pas à froid ce pain. Ensuite, quand vous avez mis donc, votre plat au four, vous gardez bien le plat à cake avec vous. On va mettre à cuire le saumon. Alors, vous avez plusieurs solutions. Vous pouvez le mettre 5 minutes au micro-ondes. Donc, important, c'est que si vous le mettez aux 5 minutes au micro-ondes, donc tout dépend de la puissance de votre four, mettez un couvercle dessus.
Ah oui.
Alors, pour deux choses, parce qu'il y a des éclaboussures, parce que ça va péter à un moment donné.
Ouais.
Et puis, pour la deuxième chose, et qu'on oublie, c'est qu'il est important dans un micro-ondes de couvrir tout le temps, ou d'un film, ou d'une assiette, ou d'une cloche, parce que ça fait répartir la chaleur partout. Alors que si vous ne mettez pas d'assiette, ben effectivement, il va y avoir explosion, mais il va y en avoir partout, mais ça ne va pas répartir la chaleur et la cuisson partout. Donc, il faut mettre les cloches, voilà.
D'accord.
Même si on n'est pas, on n'est plus à Pâques, il faut mettre les cloches. Alors, au cuivapeur, vous le cuirez 10 minutes, hein, ça suffit. C'est pas, on demande pas un très cuit, on demande un mi-cuit. Donc, c'est, puisqu'il va recuire après au bain-marie.
Oui, c'est ça.
Donc, 10 minutes, ça suffit. Il ne faut pas qu'il soit cru non plus. Hein, donc voilà, mais 10 minutes à partir de l'eau, à partir du moment où l'eau est à ébullition en cuivapeur, voilà, ça, c'est parfait. Puis une fois que votre saumon il sera cuit, vous allez bien l'égoutter parce qu'il va rendre parfois du jus. Vous préparez votre saumon, vous l'égouttez bien. On va prendre la moitié de ce saumon, et puis on va le mixer avec les 20 centilitres de crème fraîche, faire une sorte de purée, hein, et on va réserver. Puis dans un saladier, on va battre les œufs comme une omelette, donc avec une fourchette. On va y ajouter le sel, le poivre, 2 cuillères à soupe de ciboulette hachée. Vous pouvez rajouter de la nette si vous voulez, donc des épices. Vous pouvez rajouter du curry si vous voulez que ça soit un petit peu relevé. Enfin bon, voilà, ça, mais il faut savoir doser. D'accord, donc 2 cuillères à soupe au niveau de la ciboulette, ça va. 2 cuillères à soupe au niveau de... c'est un peu trop au niveau de la nette, donc peut-être mettre une seule cuillère à soupe. Et puis si vous voulez du curry, rajoutez peut-être plus une cuillère à café de curry. Ça peut être sympa. Voilà. Donc, et puis le reste du saumon, on va le mélanger à cette omelette avec après l'avoir émietté. D'accord. Donc, on a une partie qui est en purée et l'autre partie qu'on va émietter. Et puis, quand tout est prêt dans le saladier, que vous avez bien tout remué, que ça soit bien un peu homogène, tout est enveloppé, on va ajouter la purée de saumon. Donc la première préparation que l'on a faite, hein, au mixeur. Et puis, on va battre le tout jusqu'à un beau mélange homogène. Vous allez beurrer par la suite votre moule à cake. Donc n'hésitez pas à mettre pas mal de beurre. Moi, ce que je fais, c'est que je prends mon beurre dans du papier absorbant et puis je le passe dessus pour éviter de voilà, et je repasse et je repasse. Donc du vrai beurre. Si c'est du beurre allégé, ça ne fera pas du tout la même chose. Voilà, je le dis parce que voilà, j'ai fait des essais et puis ça n'a pas fonctionné comme je voulais. Donc n'hésitez pas à mettre assez de beurre de façon à ce que votre pain n'accroche pas après la cuisson, au démoulage entre autres. Et puis vous allez verser donc votre préparation dans ce moule à cake et faire cuire au bain-marie chaud, je précise. Donc toujours le four à 200 degrés, donc le thermostat c'est 7 à peu près, et pendant 35 à 45 minutes. Voilà, vous regardez comment ça se au niveau de 35 minutes, vous regardez si ça roussit pas, s'il a toujours de belles couleurs. Voilà, donc ça pour savoir comment, si c'est cuit ou pas au bout de 40 minutes, on est sûr. Mais après, moi, je mets une fourchette parce que tout dépend de votre four aussi. Voilà, on va continuer notre entrée par le coulis. Donc, pour ça, on va laver les poireaux, les émincer finement. Donc, vraiment en tout petit, hein, de façon à ce qu'on puisse les mettre à la poêle. Donc, on va faire chauffer une poêle donc à feu doux et on va les chauffer pendant 20 minutes avec du beurre, du sel et du poivre, bien évidemment. Et on va remuer éventuellement. Rajouter un petit peu d'eau s'il y a besoin. Voilà, mais toujours à feu doux. Si vous avez besoin, vous pouvez le couvrir, ça cuira un petit peu plus vite, mais si vous le couvrez, vous allez avoir de l'eau. Donc, il y a un moment donné, il faudra le découvrir parce qu'il faut qu'il ça sèche un petit peu. Mais il ne faut pas qu'il soit sec complètement non plus. Hein, donc, il ne faut pas que ça brunisse. Voilà, une fois que votre poireau, donc au bout de 20 minutes, il est cuit, on va le passer dans le mixeur pour le réduire en purée. Et puis on va y ajouter de la crème fraîche, donc de mémoire c'est 20 centilitres de crème fraîche, et vous allez mixer de nouveau. Donc vous mixez une première fois juste le poireau, même s'il y a du jus, juste le poireau, et après une deuxième fois avec la crème fraîche. Et au moment de passer à table, vous allez servir, réchauffer doucement le coulis, qui sera remis dans une casserole, sans le faire bouillir, parce que si vous le faites bouillir, la crème fraîche va se séparer et ça va faire des grumeaux, ça fera pas très très chouette. Et puis vous servirez avec le pain de saumon démoulé sur un plat de service, voilà, et déguster ça. Voilà, c'est super bon. Vous pouvez manger aussi froid, mais tiède, c'est assez sympa. Voilà.
J'ai une petite question.
Dis-moi.
Le poireau, on le met en entier, le blanc et le vert.
Ouais.
On met tout.
Oui.
Ok.
Ouais. Moi, je mets comme mes potages, je mets tout, comme quand je fais une tombée de poireaux, je mets tout. Je jette pas le vert et je garde pas le. Voilà. Je sais bien qu'il y en a qui ne gardent que le blanc. Moi, je mélange tout, mais coupez finement, bien mélanger tout ça, et vous allez voir, c'est vraiment super bon, quoi. Parce que le vert, on a quand même pas mal de chlorophylle dedans. Ça serait quand même dommage.
Ça donne de la couleur en plus au
coulis. Ça donne de la couleur et puis c'est bon. Il y a tout est bon dans le poireau, sauf le trognon, sauf
les poils,
ce qui est dans la terre en gros. Nathalie, j'aimerais que tu nous parles un petit peu du saumon qu'on connaît pas bien. On avait parlé de la truite saumonée la dernière fois,
ouais.
Mais j'aimerais que tu me parles du saumon.
Alors le saviez-vous? La majorité des saumons remontent les rivières vers les sources pour aller pondre. La plupart des adultes meurent après la ponte, et leurs millions de cadavres ainsi que les saumons mangés par les animaux sauvages, comme les ours notamment, lors de leur remontée sont une source importante d'oligo-éléments d'origine marine, favorable à la biodiversité. Alors après l'éclosion en eau douce, les jeunes migrent vers l'océan jusqu'à leur maturité sexuelle. D'autres sont exclusivement dulcagicoles, soit en raison d'un isolement géographique, comme les saumons des Grands Lacs, les saumons cocanés ou wananish, soit parce qu'ils fréquentent des bassins fluviaux de très grande taille, comme les bassins du Danube, de la Volga, de la Petchoura, de la Lana ou de l'Amour. Quel beau bassin. Il était autrefois très commun dans une grande partie de l'hémisphère nord. Et depuis la révolution industrielle et agricole, les populations de saumons sauvages sont en régression constante. Il y a aujourd'hui quasiment disparu de l'océan Atlantique. La plupart des saumons mis sur le marché et consommés sont désormais issus de pisciculture. Le saumon fait l'objet d'un élevage spécifique, la salmoniculture, de plus en plus intensif et industrialisé. Frais ou fumé, il est très apprécié. Sa pêche fait partie des pêches sportives.
Oui, tout à fait. Tout à fait.
Alors, Anne, on perd son latin. Pourtant, c'est moi qui parle de termes latins. Et bon, du coup, après ça, on va faire une petite pause et on revient tout de suite après.
Salut, c'est Pierre Demar, vous écoutez Infini Radio.
Tel que dans tes rêves. raconte.
À 20h30, cuisiner en direct avec Anne dans l'émission Food Anne.
Après la pause, excusez-moi de cette intervention, j'ai ma voix qui s'est complètement rouée, je ne pouvais plus parler et Nathalie m'a pris le relais. Merci Nathalie. Alors, on va parler maintenant pour la seconde partie du lapin au pistou. Mais avant, Nathalie, c'est quoi le pistou et d'où ça vient ?
Alors, le pistou, c'est un mot provençal. Issu du bas latin qui est pistar, qui veut dire broyer ou fouler, et de l'italien pistone, qui veut dire pilon de mortier. Le pistou ou sauce pistou, c'est une recette traditionnelle de sauce froide de la cuisine provençale à base de basilic, d'ail et d'huile d'olive, traditionnellement pilonnée dans un mortier. Alors la variante, c'est du pesto de la cuisine ligure, de la Ligurie italienne voisine, ou des persillades et aioli. Il est un des ingrédients en particulier de la soupe au pistou, qui est une variante du minestrone de la cuisine italienne.
Voilà, donc on va faire un petit peu un lapin latin-italien, en fin de compte, hein, provençal-italien. Ouais. Vous allez voir que c'est pas très très compliqué, vraiment, mais c'est toujours voilà, délicieux, puis ça change du lapin à la moutarde ou du lapin cuit au four. Alors, je vous rappelle un petit peu les ingrédients pour ce lapin. Donc, il faudra 5 tomates, 15 centilitres d'huile d'olive, du poivre, du sel, un lapin d'environ 1,2 kg, 1,5 kg, 9 gousses d'ail, 5 branches de basilic et puis 1,5 kg de cèpe ou de champignons, hein, peu importe les champignons. Mais avec les cèpes, c'est quand même plus sympa. Au niveau matériel, vous aurez besoin d'un couteau, d'un mixeur, d'un économe, d'une fourchette, d'une cuillère en bois, d'un couvercle, d'une casserole et d'un plat allant au four. Pensez à prévoir 45 minutes de préparation parce que c'est un petit peu long, mais vous allez voir, il y a quand même les légumes qui sont avec. Et puis, par contre, il y a 1h20 de cuisson parce que votre lapin, il faut qu'il cuise longtemps et surtout doucement. Alors, on y va pour les explications. Déjà, dans un premier temps, on va mettre au four le four en préchauffé. À préchauffer, donc 160 degrés, donc 5, c'est thermostat 5. Hein, donc, comme je vous ai dit tout à l'heure, le lapin doit cuire gentiment et tout doucement. On va éplucher les gousses d'ail, les 9 gousses d'ail. Et on va les mixer. Ensuite, on va couper les tomates en deux, deux tomates en petits dés. Donc vraiment, voilà, pas grossier, mais en petits dés. Que ça soit, vous laissez le jus avec. Hein, il faut vraiment qu'on ait du jus. Ce lapin, il va se gorger de jus de tomate, ça va être sympa. Et puis dans un saladier, vous allez mélanger donc l'ail et puis l'ail que vous aurez mixé et les tomates. Vous allez y ajouter 10 centilitres d'huile. Alors moi, je fais ça avec de l'huile d'olive. Parce que c'est la Provence, parce que je cuisine à l'huile d'olive et que c'est la meilleure. On va y mettre un petit peu de sel, un petit peu de poivre. Donc je vous rappelle les doses. C'est une pincée de sel pour une pincée de poivre pour deux de sel. Voilà. Et puis bien écraser le tout à la fourchette. Voilà. Donc pourquoi pourquoi pas mixer? Vous pouvez très bien mixer les deux. Hein, donc moi, quand j'ai pas le temps de couper mes tomates, je mets tout dans le mixeur et je mixe l'ail et la tomate. Ça m'évite de passer le passage de la fourchette. Voilà. Mais après, c'est vous qui voyez, c'est mieux écrasé. Mais bon, voilà. Après, c'est une question de goût et de pas d'esthétique parce que ça va cuire de toute manière. On va placer donc le lapin que vous aurez préalablement découpé ou alors votre boucher vous l'aura fait, votre volailler vous l'aura fait, donc dans le plat qui va au four, et vous allez le recouvrir de la base de préparation qu'on a fait avec donc la tomate ail, et vous allez le réserver au frais un petit moment, le temps de faire votre autre sauce dans la casserole. Dans une casserole, vous allez couper 3 tomates, je vais y arriver, puis donc les mixer, et vous allez y mettre 3 branches dans le mixeur, 3 branches de basilic. Vous salez et vous poivrez. Et puis, quand tout est mixé, vous allez le faire cuire 10 minutes à feu très doux dans votre casserole. Alors, sans oublier surtout de remuer de temps en temps, hein, et puis au bout de 10 minutes, vous allez incorporer les champignons. Donc, évidemment, les champignons, vous les aurez lavés, éventuellement un petit peu passés un petit peu avec une petite brosse pour enlever tout ce qui est un petit peu terre. Vous aurez enlevé le cul du champignon. Moi, je laisse les tiges. Hein. Il y en a qui les coupent, mais moi, je les laisse. Voilà, je les coupe en morceaux. Vous les rincez bien, vous les coupez, et puis vous les allez mettre, les incorporer à la préparation que vous avez fait dans votre casserole de tomates au basilic. D'accord ? Donc, d'un côté, on a la purée de tomates ail qu'on a mis de côté. Avec sur le lapin. Et de l'autre côté, on a les tomates, les 3 autres tomates avec le basilic, bien évidemment salé, poivré à chaque fois. Hein. Et vous allez cuire donc le jus dans un premier temps 10 minutes et après avec les autres, les champignons, 10 minutes. Prenez une grosse casserole parce que 1,5 kg, ça fait quand même pas mal.
Au début, ça prend de
la
place.
Ouais. Et après, vous allez voir, ça va réduire. On va laisser donc cuire 10 minutes de plus et puis laisser reposer à température ambiante. Donc, une fois que c'est cuit, on laisse, on n'a pas besoin de mettre au frigo, on laisse tranquillement. Et on va placer notre four maintenant, puisqu'il a pris un peu de repos.
Le lapin.
Oui, j'ai dit quoi ?
Le four.
Le four, oui, on va mettre le four dans le lapin. En fin de compte, c'était... Bon, vous pouvez toujours essayer, mais à mon avis, ça ne fonctionnera pas. Voilà, excusez-moi. Donc, on va mettre effectivement le lapin dans le plat et pendant une heure à 160 degrés. Et puis, à mi-cuisson, on va incorporer le basilic avec les tomates et les champignons et on va laisser cuire. Encore une fois, 30 minutes restantes. Tout doucement, ça va mijoter gentiment au four. Et après, bah, vous le sortez et vous vous régalez. Voilà, c'est la chose la plus simple. Alors, j'étais un petit peu dure en disant qu'il fallait quand même 45 minutes de préparation.
Je pense que ça peut aller plus vite. Hein, quand même.
Je pense aussi. Ouais. Mais voilà, il vaut mieux prévoir large. Moi, je sais que si vous mixez tout, effectivement, ça va être très très vite, très rapide. Si par contre, vous n'avez pas de mixeur, ça va être plus compliqué. C'est surtout les champignons qui sont les plus longs. long à éplucher. Mais si vous y prenez un peu à l'avance, ça sera parfait. Alors Nathalie, j'aimerais bien que tu nous dises quelques mots sur le mot lapin.
Le mot lapin, c'est un terme très général qui désigne en français certains animaux lagomorphes à longues oreilles. On les différencie des lièvres par une silhouette moins élancée et par les petits qui naissent aveugles et nus, cachés dans un nid creusé au sol. Ces animaux ne correspondent pas à un niveau précis de classification scientifique. Lapin est en fait un nom vernaculaire ambigu, désignant une partie seulement des différentes espèces de mammifères classées dans la famille des Leporidés, une famille qui regroupe à la fois les lièvres et les lapins. Alors, longtemps classés dans l'ordre des rongeurs, ils sont maintenant regroupés dans un ordre à part, les lagomorphes. Le lapin est un gibier traditionnel, classé en cuisine avec les volailles, et il est un mets apprécié dans de nombreux pays. C'est aussi un animal très présent dans de nombreux domaines culturels. L'animal aux longues oreilles est évoqué dans l'art et la littérature, tout autant que dans la culture populaire, la mythologie et la symbolique de plusieurs continents. De nombreux personnages de fiction célèbres sont des lapins, notamment dans l'univers enfantin.
Trop mignon, un lapin, c'est comme un ourson. Bon, sauf que le lapin, on va le manger, l'ourson, on le mange moins. Voilà, avant, voilà, mais il fallait passer par là pour les explications, Nathalie. Le petit lapin, voilà. Alors, les lapins nains, on les fait jamais cuire. Donc, on a bien un lapin d'élevage, et le lièvre qui est un lapin sauvage.
Oui.
Voilà, donc comme ça, on fait bien la différence et le lapin qu'on caresse, c'est pas du tout celui que l'on mange. Voilà, je dis ça pour les enfants qui nous... Et puis moi, il est hors de question que je mange mes lapins que j'ai élevés, ça c'est hors de question. Voilà, c'est pas possible. Voilà, écoutez, sur cette phrase finale, on va passer par une pause pour après passer au dessert. À tout de suite.
Salut, c'est Julien Granel sur Infini Radio.
Tu m'as quitté, je t'ai quitté, on s'est brisé le cœur. Tellement qu'on a l'air d'inconnus. Le monde est malade et l'éternue nos erreurs. Pourtant, on nous avait prévenus. Tu sais, j'ai envie, mais je pleure et j'ai peur aussi. Feel good.
bon anniversaire, ma pute.
Qu'est-ce que c'était? Hein?
On enchaîne.
Oui, oui. Donc, nous revoici pour la troisième partie de notre émission. Donc, le dessert, et ce soir, c'est un flan que je vous propose, un peu particulier, puisqu'on va utiliser les restes de chocolat de Pâques.
S'il en reste.
Alors, moi, je dirais après quelque chose, mais après la recette, parce que bien souvent, il en reste. Il en reste parce que les enfants sont trop gâtés et ils en veulent toujours plus. Donc, et toujours le dernier petit sujet, parce que les pâtissiers, les boulangers, enfin les pâtissiers, savent bien y faire et suivent la mode et c'est tant mieux pour eux, hein, tant mieux, j'ai rien contre ça, mais moi j'ai eu des enfants et ils veulent encore le dernier, enfin ils voulaient le dernier truc à la mode, voilà. Bon, ils n'avaient pas forcément tout le temps, hein, donc alors avant de commencer la recette, l'explication de la recette, Nathalie, j'aimerais que tu nous parles du flan.
Oui. Alors, le flan, c'est une spécialité culinaire cuite de forme ronde, comme son nom l'indique, de texture solide, tremblante, lisse et tendre, ayant pour base des œufs battus dans du lait ou de la crème de lait. Le flan vient de flan, de fladon au XIe siècle, au sens de rond de métal utilisé pour faire une pièce de monnaie. Le dictionnaire étymologique de Gilles Ménage décrit le flan comme une sorte de tarte, la forme ronde de ce plat qui cuit posé sur une casserole d'eau en ébullition. Jules Gouffet, lui, cuisait encore ainsi, en tout cas au XIXe siècle, en est sans doute à l'origine. L'étymologie donne une racine proto-indo-européenne, plat proto-germanique, gâteau plat, et latin flado. Des références associent le flan à une galette, anciennement une croustade. Monsieur Cousin de Courchamp parle de croustade en forme de flan, d'où le terme anglais custard ou costard en français du Canada. J'aurais dû le dire avec l'accent québécois. Sachant qu'en 1650, le dictionnaire de James Howell traduit par egg pie, qui veut dire tarte aux œufs, et en italien, flan est un budino dolce al cucciaio ou flano ou encore pudding qui se mange à la cuillère, composé d'œufs, de lait et de sucre. L'allemand adopte flan et yemisch ou umutsch en basse Corinthie, soit œuf au lait.
Donc on est bien d'accord qu'un flan, le flan là qu'on propose aujourd'hui, c'est qu'une émulsion, en fin de compte, une cuisson avec de l'œuf et du lait uniquement. Parce qu'il y a certains flans qui sont avec de la farine ou de la maïzena, et puis on met de la pâte feuilletée.
Ah, ceux-là, je les aime pas, moi.
Voilà, donc là, c'est vraiment, alors on peut appeler ça des œufs au lait, hein, exactement.
Ça,
mais
j'aime.
Voilà. J'ai pensé à toi, Nathalie, quand j'ai préparé la recette, parce que de mémoire, on avait déjà fait des œufs au lait, mais là, je rajoute mon petit grain de sel. Alors, voyons, alors, il ne faut pas grand-chose pour cette recette. 100 g de sucre en poudre, 1 litre de lait, 6 œufs, 200 g de sujet au chocolat, donc du chocolat en général. Donc, ça peut être des sujets, comme je vous ai dit, ça peut être aussi des petits morceaux de
du lapin,
mais du lapin en chocolat.
Oui,
on est bien d'accord.
En chocolat.
Voilà. Et donc pour la préparation, il faudrait que vous comptiez à petit peu près 30 minutes et puis 20 minutes de cuisson. Vous voyez, donc c'est pas énorme. On aura besoin d'un fouet, d'un saladier, de 12 ramequins. tout dépend de la grosseur que vous avez, mais prévoyez plus de façon à ce que vous n'ayez pas à courir, et puis surtout un plat pour le bain-marie, donc qui va accueillir les 12 ramequins. Donc là, on n'aura pas besoin de faire chauffer, on fera chauffer, par contre on fera préchauffer le four à 180 degrés, donc c'est thermostat 6, et puis pendant que notre four préchauffe, on va mettre dans une casserole, faire bouillir le lait, et puis laisser fondre les, donc on va couper en petits morceaux tous les chocolats qui peuvent traîner à droite, à gauche, et puis on va les mettre dans le lait, et on va les faire fondre dans le lait. Donc une fois qu'il a bouilli et que tout est fondu, on le met de côté, et puis dans un saladier on va fouetter les œufs avec le sucre, donc il faut que ça soit un petit peu mousseux, hein, comme je dis, blanchi, donc les œufs deviennent un petit peu par le fouettage avec le sucre, deviennent un peu jaune pâle, et puis on va verser donc le lait qui sera bouillant, hein, donc faites attention aux éclaboussures.
C'est un lait au chocolat. C'est du chocolat. C'est un lait au chocolat.
Oui, tout à fait. Tout à fait. Sauf qu'on l'a fait avec... Alors, là, vous ferez attention au niveau du sucre. Parce que si votre chocolat est fort sucré, ne rajoutez pas de sucre. N'en mettez que la moitié de sucre. Ouais. Hein, mais on a besoin de ce sucre pour battre les œufs, hein, quand même. Hein. Voilà. Mais vous le faites, vous mélangez vraiment. Alors, moi, ce que je fais, c'est que je mets vraiment un petit peu de lait chaud dans mon saladier où il y a mes œufs avec le sucre que j'ai battu, pour que ça prenne bien la température de l'ensemble. Et après, je remets dans la casserole ce qu'il y a dans le saladier. Et je vais réchauffer gentiment tout l'ensemble, de façon à ce que ça puisse réchauffer un petit peu. Vous voyez, donc après, vous pouvez faire dans l'autre sens, c'est-à-dire verser directement dans le saladier, mais vous y allez tout doucement avec un mince filet et en remuant constamment avec une cuillère en bois. Faut vraiment pas que... Faut pas curer les œufs, bien évidemment. Et quand vous avez fait ça, vous allez le verser. Alors, quand c'est avec un saladier, moi j'aime bien prendre ou une louche, ou vous savez, un bec verseur, voilà, un doseur. Moi, je transvide tout dans un doseur et ça me permet qu'il n'y en ait pas partout, ouais, quand je verse dans les ramequins. Et puis, vous allez enfourner 40 minutes au four. Donc, votre four reste à 180 degrés, donc thermostat 6. Et une fois qu'ils sont bien cuits, une fois que c'est cuit plutôt, on va laisser refroidir à l'air ambiante. Donc, pas mettre au frigo et on va déguster frais. Alors, bien souvent, on met au frigo, moi je fais une petite parenthèse là-dessus, on met au frigo pour que ça refroidisse. Le souci qu'il y a, c'est que quand vous mettez quelque chose de chaud dans votre frigo, c'est pas bon du tout, parce que déjà vous flinguez les résistances, et puis vous, en fin de compte, vous dégagez de la chaleur sur des aliments qui n'ont pas besoin de cette chaleur. Donc, automatiquement, vous allez avoir des germes qui vont se développer davantage. Voilà, donc surtout, vous attendez, quand vous mettez un aliment encore chaud, vous les attendez qu'ils refroidissent à l'air ambiant, ça suffit amplement. Et puis, vous le mettez au frais après. Voilà, donc c'est pour ça qu'il faut un petit peu de temps, hein, quand même, pour les préparer. Si vous les préparez à la limite la veille pour le lendemain, ça peut être sympa, ça sera encore meilleur. Alors cette recette, je dirais, s'adresse aux mamans qui, comme moi, ont vu les cloches très généreuses inonder leur jardin, bien sûr, hein, alors que les enfants n'aiment pas forcément le chocolat. Moi j'en ai eu aussi, hein, parce qu'il y avait les grands-parents qui donnaient le chocolat et machin, yin. Et alors que j'avais deux de mes enfants qui n'aimaient pas de chocolat. Donc la recette, elle est venue comme ça. Donc voilà. Donc vous pouvez faire avec tout le chocolat qu'il y a dans vos placards, le faire fondre comme vous voulez. On a du chocolat à la Saint-Valentin, on a du chocolat à Noël. Alors évitez de faire ça avec le chocolat fourré, ça n'a rien à voir.
Ah bah oui.
Voilà.
Oui,
mais moi j'ai fait des essais, hein, c'est pour ça que... Et bien évidemment, cette recette, vous pouvez faire aussi avec les plaques en chocolat, hein, comme on fait les chocolats. Juste une parenthèse, encore une. Vous pouvez aussi prendre pour ce chocolat-là en sujet. Vous pouvez prendre ça et faire des mousses au chocolat. Voilà. Donc, ce chocolat, c'est simplement de la couverture, donc vous pouvez très très bien prendre ce chocolat pour la mousse au chocolat et pour vos desserts au chocolat. Alors Nathalie, justement ce chocolat là, on me dit qu'avant il y aura une pause, donc ouais. Avant que tu nous parles de ce délicieux chocolat,
je vais tout vous dire sur le chocolat après la pause.
Et bien voilà, après la pause, tout de suite.
Salut, c'est Emma Peters sur Infini Radio.
Je suis pas d'humeur, j'ai mal dormi, je vais me faire un verre. J'ai pas d'amour, j'ai pas d'amis, donc pas d'emmerde. Pas de paradis, pas d'utopie, j'ai pas d'enfer. Moi, quand je mourrai, quand tout sera fini, je ferai pas de manière. Je crois plus en Dieu depuis que lui ne croit plus en moi. Je crois plus en toi, t'as dit je t'aime, tu le pensais pas. Cerveau surchauffe, pourquoi ma tête est faite comme ça? Mon corps t'a menti, j'ai pas kiffé tant que ça. Je fais ce que je veux, je m'en fous de l'heure qu'il est. Je pleure dans le micro, je gagne des milliers. Chez moi c'est Noël toute l'année. On avance solo, on vise les sommets. Souvent je trébuche, je suis compliqué. Armure en béton, pas d'embûche, je fais que briller. Un jour je vais me calmer pour laisser quelqu'un m'aimer. Oui, je check mes likes, mais juste pour voir si t'as liké. Toutes mes névroses me portent bonheur, j'en fais de la prose, j'en fais du beurre. Tout ce qui me tue pas, c'est full bonus. Je kiffe les yeux noirs, je trouve qu'ils brillent plus. Paris se visite en octilien, mais tu feras tes stories de moi. On avance solo.
Cuisiner en direct avec Anne, dans l'émission Food Anne.
Alors, on voulait parler du chocolat, donc en fin de compte, ça va être Théo qui va nous parler de l'histoire du chocolat. Donc vas-y, je t'écoute Théo.
Tu m'écoutes, mais tu me tournes le dos.
Ah ben, je suis désolé, mais vu l'installation du studio, c'est compliqué.
Ah mais, ouais, ok. L'histoire du chocolat, elle est passionnante et elle commence il y a plusieurs siècles. Alors, depuis, le cacao et le chocolat ont connu de nombreuses modifications pour finalement devenir l'aliment que tous les Français adorent. Par contre, ceux qui n'adorent pas, je ne vous comprends pas, je vous déteste. Alors, avant d'être découvert en 1519, et ça remonte très loin, hein, je n'ai pas connu cette époque, par Hernán Cortés, le cacao était traditionnellement utilisé par les Aztèques et les Mayas, indigène du Mexique et d'Amérique centrale, réservé à l'élite, il était consommé dans une boisson, le... Nanou, je te laisse te dire, celui-là, c'est...
Chocoatl.
je l'aurais pas dit aussi bien, diluée dans l'eau parfumée à la vanille, à laquelle on ajoutait du piment accompagné d'autres épices sucrées au miel et battue énergiquement pour former une mousse épaisse à sa surface. Chez les Mayas, il était essentiellement utilisé pour des cérémonies religieuses. Les Aztèques, quant à eux, diffusèrent la fève au fil de leur expansion dans les autres régions du Mexique. La boisson tiède et amère que les Espagnols découvrirent ne faisait pas l'unanimité au sein, j'ai toujours du mal à dire unanimité, au sein des conquérants. Si son adoption, je vais y arriver, connut un immense succès au sein de l'élite coloniale, c'est grâce aux moines espagnols qui eurent l'idée de substituer le miel par le sucre de canne, le piment par la cannelle et qui se mirent à la boire chaude. Voilà. Faut savoir que les premières fèves de cacao, elles furent ramenées en Espagne dès le retour de Hernán Cortés dans la péninsule en 1528. Encore une fois, je n'ai pas connu cette époque. Après la colonisation du Mexique, le cacao fut exporté vers la métropole dans le cadre du commerce triangulaire. J'ai appris ça en histoire, c'est vrai, en géo. Et mélangé au lait, je vais arrêter de faire des commentaires. Son succès sera fulgurant, mais son importation par la ville de Séville ne devint régulière qu'à la fin du 16e siècle, je vais y arriver, c'est pas, les chiffres romains, j'ai du mal. Et ce n'est qu'au début du 17e siècle que le chocolat s'établit dans les mœurs espagnoles. Alors le chocolat, il fut introduit à la cour de France vraisemblablement en 1615 par le mariage de l'infante Anne d'Autriche, fille de Philippe III d'Espagne et de Louis VII, 8
13
13 ? Pardon, Louis XIII. Cependant, Louis XIV ne l'aimait pas, ce qui contribua à retarder son adoption en France. Alors, populaire en Espagne, le cacao y demeura très longtemps en France à l'usage exclusif de la cour et de l'aristocratie. Le chocolat français est de ce fait réputé pour être un produit noble car il utilise des forts pourcentages de cacao et un peu de sucre, très rare à l'époque, ce qui en fait une particularité coûteuse. Et c'est avec l'activité industrielle naissante du début du
19e
siècle, merci Nanou, par le développement des techniques de fabrication et en particulier la baisse du prix du sucre, que l'industrie chocolatière voit le jour. Ses qualités gustatives et ses vertus en faisant une friandise et une boisson très appréciée. C'est également à cette époque que le cacaoyer fut introduit en Afrique par les Portugais et dans le sud-est asiatique par les Hollandais. Aujourd'hui, le cacao il est utilisé sous des formes multiples, en boisson, en tablette, en confiserie de chocolat, en barre, en poudre, en pâte à tartiner et en chocolat de couverture. Ça en fait quand même hein, des formes différentes. Et l'originalité du chocolat ne tient qu'à l'extrême diversité de ses déclinaisons et de ses présentations. C'est ce qui en fait son charme et son succès, comme moi. Et c'est parce que le chocolat est l'un des aliments les plus appréciés à travers le monde qu'il a sa place dans de très nombreuses occasions comme Pâques, Noël ou encore la Saint-Valentin. J'ai réussi.
Quel exploit vraiment hein.
Donc, avec le petit commentaire qui allait.
Oui hein, oui c'est... oui c'est bien. Bon il a.
Oui, parce qu'on m'a accusé de mettre 2 minutes dans la vue sinon alors.
Ouais écoute moi il me reste 2 minutes voilà
tout pour, à fait.
Pour cette fin d'émission déjà. Vous allez pouvoir retrouver des podcasts. Ah oui ben tu vois je m'entraîne tous les soirs et sur nos sites et ou encore les Facebook.
Partout,
Nathalie.
Les podcasts sur le site et sur toutes les plateformes de podcast.
Voilà. Exactement. Bien évidemment, les recettes sont à partager, à faire et refaire. Vous allez pouvoir en profiter là, puisqu'on a 15 jours de vacances. Donc, c'est déjà les vacances.
Profitez-en pour cuisiner avec les enfants.
Voilà, profitez-en pour cuisiner, trouver des fêtes, des ateliers avec les enfants pour faire des biscuits, des choses comme ça. Allez piocher dans nos recettes, elles sont là pour ça. Et puis, régalez-vous. Et puis, encore une fois, c'est des recettes qui sont faciles à faire hein, et puis qui sont surtout délicieuses. Voilà. Et puis, ça permet d'apprendre aux enfants de bien cuisiner, surtout. Voilà. Bah, écoutez, on se retrouve donc dans 15 jours, après les vacances. Oui. Même jour, donc mardi 19h30, pour de nouvelles recettes aussi délicieuses et faciles à réaliser. Voilà. On vous souhaite de superbes vacances.
De belles vacances ensoleillées, on espère.
Voilà. Et puis, bon appétit et une excellente soirée. Et puis, surtout, vous prenez soin de vous. Bonne soirée.
Bonsoir.